C'est la fin d'année, c'est le moment pour beaucoup de faire le bilan des 12 derniers mois et de se souhaiter les meilleurs vœux possibles pour l'année à venir. Dans certains pays du continent, tous les regards sont tournés vers le développement économique et social, tandis que la population de leur côté pense à plus d'argent, de prospérité et à la paix. La paix, c'est ce qui est sur toutes les lèvres au Burundi, par exemple. Elle conditionne le retour de milliers de Burundais qui ont fui les troubles politiques dans leur pays les deux dernières années. Ils sont très nombreux au Rwanda, entre autres des artisans, des paysans, des enseignants, des militaires ou encore des journalistes. Pour bon nombre d'entre eux, surtout ceux qui ont fui le pays cette année, 2016 n'a rien changé et le temps n'est pas à la fête. Retour sur la vie de ces hommes et femmes au Burundi et surtout au Rwanda.
Alors que d'autres seront dans la joie, nous, on va mal débuter l'année.
Je suis inquiet de n'avoir pas de quoi nourrir mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai rien gagné. Je ne vois pas comment je vais faire lors des fêtes.
Cette année encore, ils ont été des milliers à être réfugiés dans leur propre pays ou à fuir le Burundi vers les pays voisins, laissant derrière eux les violences policières qui continuent dans le pays. Des violences nées de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat et qui ont fait des dizaines de morts. Les chiffres varient suivant les sources. Pour les déplacés internes du site de Charama au nord de la capitale Bujumbura, que notre correspondant sur place Antedi Teste Niragira a rencontré, l'année se termine mal. Le gouvernement vient de décider de les refouler de cet endroit.
Quand nous célébrons les fêtes, on se partage ce que chacun a eu, mais on ne peut pas le faire dans la rue. Le gouvernement devrait différer cette décision pour au moins célébrer les fêtes comme d'habitude et revoir peut-être sa décision après les fêtes.
Alors que d'autres seront dans la joie, nous, on va mal débuter l'année. Je trouve mieux de nous laisser tranquilles célébrer les fêtes en partageant ce que l'on aura eu. Et puis il faut nous donner des propriétés foncières comme on l'a fait pour les autres.
Je suis inquiet de n'avoir pas de quoi nourrir mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai rien gagné. Je ne vois pas comment je vais faire lors des fêtes.
De même pour les Burundais qui ont pris la route de l'exil dans les pays voisins, les conditions de vie ne sont toujours pas les meilleures. Dans le principal camp de réfugiés qui les accueille à Mahama, au Rwanda, même si le site de Mahama fait partie des camps les plus entretenus de la sous-région, en cette fin d'année, les conditions de vie sont loin d'être les plus enviables avec les pluies diluviennes.
Les tentes sont vieilles. Nous essayons de les réparer avec d'autres tentes déchirées en les superposant, mais cela ne nous met pas à l'abri de la pluie. Nous attendons la réaction des responsables du HCR pour que la saison pluvieuse ne nous trouve pas dans cette situation.
La pluie qui est tombée la fois passée a emporté ma tente et tous mes papiers médicaux ont été endommagés. Ce jour-là, j'étais allé chercher du travail et au retour, c'était la catastrophe.
La superficie du camp, qui était au départ de 50 hectares, a doublé en moins d'un an. Les Nations Unies disent de leur côté faire le nécessaire en vue de venir en aide aux réfugiés. Saber Assam est le représentant du HCR au Rwanda.
2200 abris supplémentaires seront octroyés et donc le délai de toutes les échéances de la construction, c'est d'ici le mois de décembre. Et nous souhaitons que pour la saison de pluie qui commence la vraie saison de pluie au mois de janvier, tous les abris seraient construits, l'hôpital sera déjà fonctionnel et que les gens n'auraient pas besoin à souffrir ou n'auraient pas à souffrir avec la pluie.
En février dernier, en plus des tentes et blocs d'habitation, des salles de classe et des locaux appartenant aux organisations humanitaires du camp se sont effondrés suite à des pluies diluviennes. Malgré ces problèmes, certains réfugiés s'adonnent à des activités sportives et culturelles dans le camp, pour oublier la réalité, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Ici vivent près de 55 000 Burundais. Parmi eux, Edouard, c'est le nom que nous lui avons donné. Il a eu, lui, moins de chance avant d'arriver à Mahama. Comme d'autres réfugiés, il attend la visite d'une délégation du ICR venue s'imprégner de leur situation au Rwanda. Son épaule et son bras droit sont bandés. Il dit avoir vécu l'horreur à Chibitoke.
J'étais venu rendre visite à ma famille à Chibitoke, dans la commune de Buganda. Le responsable de la documentation de Chibitoke, un certain Nirera, m'a interpellé. Quand je suis sorti de la maison, il m'a tiré dessus et je suis tombé en syncope. Et comme j'étais par terre comme un cadavre, il a conclu que j'étais mort. Après son départ, la population m'a évacué vers l'hôpital. Le lendemain, Médecins Sans Frontières m'a récupéré et m'a soigné. À ma sortie de l'hôpital, j'ai pris la décision de fuir.
Les impacts de balles sont encore visibles. Nombreux sont les réfugiés burundais que nous avons rencontrés en Tanzanie et au Rwanda qui accusent les services de renseignement burundais des pires atrocités. Un autre Burundais a pris la fuite cette année, mais dans des conditions plus dramatiques. Nous partons à sa rencontre dans une localité non loin de la frontière burundaise dans le sud du Rwanda. Il refuse qu'on indique le lieu de son refuge. Lui qui a été victime de l'une des pires atrocités évite le grand public. Ce paysan a été arrêté un soir sur le chemin du retour des champs par des jeunes se réclamant du parti au pouvoir CNDD-FDD. Il a réussi à s'enfuir, mais avec des séquelles qu'il gardera pour toujours.
Aujourd'hui, je n'ai plus de testicules. C'est le chef du service des renseignements de la province de Kayanza, Eliphas, lui-même qui me tapait avec tout ce qui lui passait par la main. Il m'a donné des coups de pied sur les testicules. C'était mon petit déjeuner tous les matins. Et voyez mes testicules, il les a écrasés et ils ont été enlevés. C'était une torture très douloureuse, mais il mettait dans ma bouche un caillou pour que je ne puisse pas crier. J'ai été arrêté en compagnie de 5 autres personnes par des miliciens Imbonerakure avant d'être remis aux agents du service de renseignement de Kayanza. Les Imbonerakure nous ont bien battus avant de nous remettre aux agents. Ils nous ont accusés d'appartenir à un groupe armé.
Aujourd'hui, la plaie est cicatrisée, mais le traumatisme demeure. Tous les réfugiés arrivant au Rwanda affirme avoir été arrêté et remis aux agents du service des renseignements par des jeunes militants Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD. De l'autre côté de la frontière règnent les Imbonerakure, prêts à en découdre avec les ennemis, c'est-à-dire les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et ceux qui le combattent par les armes, mais de façon sporadique jusqu'à présent. Ces derniers sont dans le maquis et troublent le sommeil du président et ses soutiens. Ses soutiens qui ne ratent aucune occasion pour le lui démontrer par des cris de ralliement et des chants guerriers. Les Imbonerakure restent déterminés et rejettent toutes les accusations d'exaction commises sur les populations civiles. Ce que fait Nancy Ninette Moutoni, elle est Imbonerakure et chargée de communication du CNDD-FDD.
C'est regrettable ce qu'il a eu à subir, mais quand même, dire que des Imbonerakure l'ont recueilli pour aller l'incarcérer, ou les Imbonerakure n'en font pas ça. Ce sont des actes de torture qui sont inacceptables et que nous dénonçons et combattons tous les jours.
Tout comme Nancy Ninette Moutoni, Fridolin Nzambimana est aussi l'un des responsables des Imbonerakure.
C'est simplement une campagne de haine et de médisance. Et je dirais même que ceux qui parlent mal de nous ne nous ont jamais compris et n'ont jamais cherché à nous connaître ou à nous côtoyer. Parce que celui qui m'a côtoyé, moi Fridolin, ne va pas te dire que je suis un criminel comme certains médias essaient de le faire comprendre à l'opinion. Donc, à mon avis, c'est cette logique de toujours prendre les Imbonerakure comme des criminels ou des génocidaires ou des violeurs ou des tortionnaires. C'est simplement une campagne qui a des motivations politiques.
Et que dites-vous de quelqu'un qui vous accuse de l'avoir arrêté, maltraité, torturé, avoir mis un couteau qu'on a fait chauffer dans sa bouche?
S'il avait des preuves évidentes et crédibles, que moi personnellement je l'ai...
Pas vous, mais les Imbonerakure.
Non, c'est justement cette globalisation que moi je conteste. Parce que dans notre parti, CNDD-FDD, et particulièrement dans la Ligue des Jeunes, la responsabilité n'est pas collective, la responsabilité est personnelle.
Dans cette chanson, les Imbonerakure parlent des valeurs qu'ils défendent, qui sont la protection de la patrie, le travail et la loyauté au chef du parti qui n'est que le président Pierre Nkurunziza. À Bujumbura, on dit compatir aux douleurs des victimes, mais pas question de reconnaître la responsabilité des agents de la documentation. Willy Niamitoué est le conseiller en communication du président Pierre Nkurunziza.
Raison pour laquelle le président a pris même des mesures salutaires. Il ne sort pas du pays parce qu'il a prévu de s'occuper de tout cela et d'en finir avec ces actes de violence et qui continuent à ternir l'image du pays. Et les résultats sont tangibles. Le pays est maintenant sécurisé. Vous pouvez passer partout, que ce soit de jour ou de nuit. Ces cadavres qu'on voit dans les rues ou ces petits criminels qui tiraient pendant la nuit, tout ça appartient au passé. Pourquoi ? Parce que le président a pris le taureau par les cornes, a décidé de foncer droit vers la sécurisation et la pacification totale du pays, malgré toutes les ingérences extérieures, malgré tous les actes d'agression en provenance du Rwanda et tous les actes de sabotage de la part de certains acteurs internationaux, pour qu'enfin les Burundais puissent jouir des fruits de leur liberté, de leur démocratie et de la paix retrouvée, mais en toute sérénité.
Moins d'un mois après ces assurances de Willy Niamitoué, le conseiller en communication du président a été lui-même la cible d'une tentative d'assassinat à Bujumbura. La majorité des réfugiés qui arrivent au Rwanda sont des femmes et des enfants. Ces derniers voyagent souvent seuls, selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Aujourd'hui, les réfugiés burundais se sentent plus en sécurité au Rwanda que dans leur propre pays, mais ils sont toujours inquiets. Mi-février, le ministère rwandais des Affaires étrangères avait annoncé vouloir relocaliser les réfugiés burundais présents sur son territoire vers les pays tiers. L'annonce est intervenue alors que le Burundi puis les États-Unis ont accusé Kigali de chercher à déstabiliser son voisin burundais en enrôlant des réfugiés présents sur son territoire afin de renverser le régime de Bujumbura. Pour le Rwanda, la décision de relocalisation des réfugiés burundais a été une décision définitive. C'est ce qu'ont martelé les autorités de Kigali une nouvelle fois fin octobre dernier à une délégation du ICR conduite par le directeur adjoint de l'agence onusienne et la princesse de Jordanie venue rendre visite aux réfugiés. Incertitude et stupéfaction au sein de la communauté burundaise à Kigali.
C'est vraiment une déception d'attendre que le Rwanda puisse prendre cette décision de nous envoyer ailleurs. Parce que ailleurs, nous ne voyons pas c'est où. Quel est cet pays qui va, encore une fois, accepter de nous accueillir?
Je me sens bien sûr très attristée par cette nouvelle parce qu'il y en a qui peuvent survivre ici au Rwanda parce qu'ils ont déjà créé des amitiés avec des Rwandais. Donc je me demande comment est-ce qu'on peut le faire ça?
Alors moi je dirais que c'est une décision plutôt politique. Ce n'est pas une décision qui va dans le sens de protéger les réfugiés burundais qui sont en exil.
C'est plus d'incertitude que quand même de la déception. Et voilà, nous attendons. Où vont-ils nous amener? Nous espérons qu'ils vont trouver une solution qui sera bénéfique pour nous les réfugiés. Donc, solution entre le Rwanda et les Nations Unies à travers le HCR. Et voilà, nous attendons. Nous sommes toujours dans l'incertitude. Où vont-ils nous amener? Qui va accepter de nous accueillir? Est-ce qu'on aura toutes les garanties de sécurité que nous avions jusqu'ici? Est-ce que nous aurons toutes les garanties d'avoir une vie normale que nous avions ici au Rwanda? Bon, nous attendons.
Depuis le début de la crise burundaise, les relations entre le Rwanda et son voisin sont au plus mal. Le Burundi accuse toujours Kigali de soutenir des rebelles qui tentent de renverser son gouvernement. Alain Aimé Niamitoué est le ministre burundais des Affaires étrangères.
Le Burundi ne traverserait pas de crise politique s'il n'avait pas été victime d'ingérences étrangères. Permettez que je dise que jusqu'à aujourd'hui, le Burundi a su faire face aux attaques extérieures et intérieures avec brio. Je crois que vous pouvez vous rendre compte qu'au bout d'un an et demi, depuis le début, depuis l'insurrection d'avril-mai 2015 à Bujumbura, la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, le gouvernement est toujours en place, l'administration est toujours en place, l'armée et la police font le travail. Donc, les institutions de la sécurité font le travail comme il faut. Il y a un État qui fonctionne, il y a une administration qui fonctionne, et ça, je suis désolé, tout le monde doit le reconnaître.
Le Rwanda a toujours nié toutes ces accusations. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, dont 25 000 à Kigali, où se concentrent notamment hommes politiques, militants associatifs ou journalistes menacés dans leur pays. Effectivement, parmi les réfugiés burundais, on compte aussi des journalistes. Depuis 2015, selon Reporters sans frontières, RSF, la répression contre les médias est quotidienne au Burundi et prend toutes les formes du harcèlement judiciaire au tir à l'arme lourde contre les radios privées pour les obliger à fermer. Conséquence, ils sont au moins une cinquantaine à trouver refuge au Rwanda, au risque d'envenimer les relations déjà tendues entre Bujumbura et Kigali, autrefois alliés. Alexandre Niyongeko, président de l'Union des journalistes burundais, a choisi de continuer son travail depuis le pays des mille collines. Avec d'autres médias et journalistes burundais en exil, il a créé la radio Izamba qui diffuse via les réseaux sociaux.
Izamba, ça signifie comme trompette. C'était un instrument de musique qu'on utilisait un peu dans le temps pour rassembler les gens. Donc quand la trompette retentissait, c'était que soit les gens, les responsables administratifs voulaient rassembler les gens pour une communication, ou alors c'était aussi un instrument de musique que les gens utilisaient pour, dans leurs manifestations culturelles.
Voilà, donc aujourd'hui, votre mission, comme l'indique le nom de votre organe, c'est de rassembler les Burundais autour d'une cause commune.
Absolument, c'est pour... Effectivement, notre objectif, c'est de d'informer le public ce qui se passe au Burundi et bien évidemment de redonner espoir à ce public qui a vu ses droits bafoués, son droit d'accès à l'information, et c'est aussi d'occuper les journalistes. En tant que journaliste, de rester aussi dans notre profession. Parce que imaginez-vous ce que nous serions devenus depuis une année si on n'avait pas initié ce projet et que nous restions quand même occupés sur le plan professionnel. Je ne saurais pas ce que nous serons devenus.
Et comment vous travaillez au juste? Comment se passe le travail de Izamba?
Le travail Izamba, c'est donc chaque matin, nous avons une conférence de rédaction et où nous discutons sereinement des sujets qu'il faut traiter, où nous essayons aussi d'avoir une critique des éditions, de l'édition précédente, de l'édition de la veille, et alors, après la réunion, d'affecter les journalistes qui doivent faire... chacun sur le sujet qui doit être traité. Et alors, on va vers la collecte. Après, on se retrouve vers en fin de journée pour voir ce que nous avons pu avoir, pour qu'on puisse donner un go-ahead pour la diffusion.
Et depuis Kigali, comment vous arrivez à travailler? Votre objectif, c'est... le Burundi, les gens qui sont au Burundi et aussi la diaspora burundaise. Et depuis ici, comment vous arrivez à recueillir, à faire les recoupements?
Nous avons quand même une gamme de personnes ressources au niveau du pays, à travers tout le pays. Nous avons nos personnes ressources là-bas. Nous avons aussi nos correspondants, mais bien évidemment qui restent secrets, parce que qui restent confidentiels pour des raisons de sécurité. Et donc, c'est grâce à ce réseau et de correspondants et de personnes ressources que nous arrivons à collecter, à recouper et finalement à avoir une information crédible et exacte qu'il faut diffuser.
Oui, information crédible, mais les autorités burundaises parlent de vous comme des rebelles. Pour eux, vous êtes des rebelles, vous êtes, vous mettez l'État en danger, vous soulevez la population contre les autorités en place.
Premièrement, par rapport à la qualification de rebelle, personnellement, je n'ai aucun problème qu'on m'appelle rebelle parce que je me rebelle contre la décision de faire taire les médias. Je me rebelle contre le déni des droits du public à l'information. Alors si c'est pour cela qu'on m'appelle rebelle, j'accepte d'être rebelle.
Alexandre Niyongeko, tout comme les journalistes indépendants burundais, était déjà dans le collimateur du pouvoir avant le début de la crise politique. Depuis, ils disent craindre pour leur vie. Bob Rugurika, qui a déjà fait les geôles du pouvoir à Bujumbura, est le directeur de la radio publique africaine, RPA, une chaîne privée. Sa radio anime aussi une émission dénommée « Umura depuis l'exil ».
On tient le coup, et on ne lâche pas parce que absolument on devra faire tout pour ramener ce pays, le Burundi, à la stabilité, pour le ramener sur les rails, quoi.
Vous tenez le coup et depuis le Rwanda, où vous êtes, vous continuez de faire votre travail d'une manière ou d'une autre en direction des Burundais, de ceux qui surtout sont sur place et aussi en direction des réfugiés. Et comment se passe ce travail?
Effectivement, vous savez, le travail ne se fait pas seulement à partir du Rwanda. Parce que les journalistes exilés sont un peu partout. Nous avons des collègues qui sont basés en Tanzanie. Nous avons des journalistes qui sont parvenus à arriver en Europe. Il y a d'autres qui sont effectivement au Rwanda. Et là, je dirais qu'ils sont nombreux. Et c'est pour cette raison en fait, que beaucoup de gens effectivement disent ou pensent que le travail des journalistes se fait à partir du Rwanda. Au Rwanda, les journalistes n'ont pas de studio. Au Rwanda, les journalistes n'ont pas des radios faites. C'est seulement, ils sont peut-être là, beaucoup plus nombreux. Et c'est pour plusieurs raisons. Vous avez entendu ceux qui étaient même en Ouganda, au Kenya. Ils se sont fait agresser. C'est pour cela que la plupart des journalistes préfèrent rester au Rwanda. Mais non seulement pour des questions de proximité avec le Burundi, mais aussi et pour des questions de sécurité, vous savez, Kigali, actuellement, c'est la ville la plus sécurisée de la région. Donc, et vous savez que tous ces journalistes sont sous des menaces de mort en provenance du régime de Bujumbura. Donc, ce qu'ils essaient de faire, effectivement, depuis le début de l'année, nous avons décidé de résister. Parce que le pouvoir a détruit nos médias. À côté de la destruction méchante de nos médias par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, et sa milice Imbonerakure, ils nous ont ensuite exilés parce qu'ils ont failli tuer certains de nos collègues. Et vous le savez qu'il y a même des journalistes qui sont restés au Burundi qui ont été tués. Parce que c'était ça, en fait, l'objectif du pouvoir, de continuer à tuer les gens en silence.
Bob Rugurika, le directeur de la radio burundaise, la radio publique africaine. Depuis plus de 6 mois, on est sans nouvelles du journaliste burundais Jean Bigirimana, porté disparu au Burundi. Il aurait été arrêté par les agents du service des renseignements. Les émissions et initiatives des journalistes burundais en exil sont mal perçues par les autorités burundaises qui y voient une main invisible du Rwanda. Et la normalisation des relations entre Bujumbura et Kigali passe aussi par le règlement de la crise au Burundi. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et nous vous souhaitons déjà nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle.
Un cimetière s'est formé entre Nako et moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le kasoukou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayons de soleil en suspension, filaments de poussière dans l'air, qui traversent le salon pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence, petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence, dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques, à l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique, petit garçon genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux, nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux, les excursions chevaleresques, les fous rires, les pactes de sang, Copain, ça compte, copain, ça reste. Copain, c'est d'abord un mot d'enfant.